Bienvenue dans Présicast, le podcast OpinionWay dédié à l'élection présidentielle, avec Bruno Jambard, directeur général adjoint, et Frédéric Michaud, directeur des études politiques d'OpinionWay. L'élection présidentielle est-elle déjà jouée? C'est la question qui est posée à nos deux experts cette semaine.
Bienvenue dans ce troisième Présicast consacré à l'élection présidentielle. Cette semaine, avec Bruno, nous allons nous poser une question qui nous est régulièrement posée. L'élection est-elle jouée d'avance? L'élection est-elle déjà jouée? C'est une thématique qu'on entend souvent, qu'on lit parfois dans les médias, cette idée que, alors même qu'il reste plusieurs semaines de campagne, le scrutin serait déjà décidé. Bruno, est-ce qu'il existe des éléments dans nos enquêtes, notamment dans le Présitrack, qui permettent d'étayer cette thèse?
Alors, il y a un élément principalement sur lequel s'appuie cette thèse, c'est aujourd'hui l'écart entre les deux premiers candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et le troisième, François Fillon, qui, dans notre enquête d'aujourd'hui, est de 6 points entre Emmanuel Macron, deuxième avec 25%, et François Fillon, troisième avec 19%, qui peut laisser penser et qui peut, je dirais, conforter l'idée d'une élection qui serait d'ores et déjà jouée. D'autant plus que quand on regarde deux autres indicateurs qui sont le pronostic de victoire, Emmanuel Macron est largement en tête avec un Français sur deux, quasiment 49% aujourd'hui, qui nous dit que Emmanuel Macron va gagner l'élection présidentielle. Et troisième indicateur, le souhait de victoire. Emmanuel Macron, là encore, est en tête avec 25% des souhaits de victoire devant ses deux autres adversaires. Donc c'est principalement à partir de ces éléments que se construit cette idée que l'élection serait déjà jouée. C'est évidemment quelque chose qui peut sembler naturel à un peu plus de 5 semaines du scrutin, avec des écarts qui sont quand même conséquents entre les deux premiers et le troisième, avec aussi le sentiment d'une tendance qui est favorable à Emmanuel Macron. Au début du Présitrack, son avance sur François Fillon était beaucoup plus faible. Il a même été quelques moments à égalité avec François Fillon, et depuis maintenant environ 3-4 semaines, il est systématiquement devant et avec plutôt une tendance à l'accroissement de son avance. Donc ce sont principalement ces éléments-là qui peuvent donner ce sentiment. J'y ajouterai un autre point, c'est que il y a un peu cette idée générale qui est que dans une campagne électorale, les courbes se croisent une fois. Et donc les courbes entre Fillon et Macron se seraient déjà croisées et donc ce serait terminé. Mais je crois qu'on peut dire que c'est un peu plus complexe que ça quand on regarde l'histoire des élections présidentielles.
Oui, notamment la dernière élection présidentielle en 2012, il y avait eu plusieurs croisements de courbes entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. On se rappelle aussi du référendum de 2005. Là, les intentions de vote entre le oui et le non s'étaient croisées plusieurs fois. Quand on regarde l'histoire des intentions de vote de l'élection présidentielle, on voit que certaines élections, dans certaines élections, le candidat qui, au final, est élu, est en tête dans les intentions de vote de manière très tôt. C'est le cas de manière idéale typique pour François Mitterrand en 1988. Les intentions de vote, il a toujours été entre 30 et 40%, très loin devant ces deux autres candidats. Il y avait eu d'ailleurs à l'époque un croisement de courbes entre Raymond Barre et Jacques Chirac, mais aucun de ces deux candidats de l'UDF ou du RPR n'avait été en mesure de rattraper ou même d'inquiéter François Mitterrand dans les intentions de vote. A l'inverse, il y a aussi des élections présidentielles qui ont été le théâtre de rebondissements, soit en cours de campagne, on pense évidemment à l'élection présidentielle de 1995 avec le surgissement de Jacques Chirac, ou plutôt le retour en grâce de Jacques Chirac, et un croisement de courbe avec Édouard Balladur, et puis aussi, de façon peut-être un petit peu plus tragique pour les instituts de sondage, l'élection présidentielle de 2002 avec une surprise, non pas en cours de campagne, mais à la toute fin de la campagne, lors du premier tour. Ça m'amène peut-être à une nouvelle question qui concerne justement nos intentions de vote de second tour. Aujourd'hui, l'un des éléments qui permet de dire aussi que l'élection est jouée d'avance réside justement dans ces hypothèses de second tour, avec cette idée que quel que soit le candidat face à Marine Le Pen au second tour, ce candidat sera élu. Est-ce que cette idée est véritablement confortée par les chiffres des sondages électoraux, d'une part. Et puis peut-être avant, est-ce qu'on est certain de la qualification pour le second tour de Marine Le Pen ?
C'est effectivement ce qui renforce cette thématique de l'élection qui serait déjà jouée, c'est que, dans le fond, comme tout le monde pense que Marine Le Pen sera au second tour, tout le monde se dit que c'est le premier tour qui est décisif, et à partir du moment où on a le sentiment que le premier tour, l'écart entre les deux principaux adversaires de Marine Le Pen, Macron et Fillon, s'est fait, on a une élection qui est jouée, puisque l'un des deux l'emportera face à Marine Le Pen.
Je rappelle juste, entre parenthèses, qu'il y a quelques mois, tout le monde pensait qu'en réalité c'était pas le premier tour de la présidentielle, mais le second tour de la primaire de la droite qui était décisif. On voit bien que cette thèse, qui était très en vogue hein, à l'époque, a été quand même très largement battue en brèche par le déroulé de la campagne électorale.
Oui, donc effectivement, aujourd'hui, toutes les intentions de vote de second tour que l'on peut faire, que ce soit dans une hypothèse Macron-Le Pen ou dans une hypothèse Fillon-Le Pen, montrent que soit François Fillon, soit Emmanuel Macron l'emporterait alors nettement dans le sens où l'écart serait un écart important pour un second tour d'élection présidentielle, mais évidemment, si on prend en compte le fait que ce serait face à une candidate du Front National, nettement doit être relativisé par rapport au fait que toutes nos enquêtes montrent aussi que Marine Le Pen ferait bien plus que ne l'avait fait son père en 2002 et qu'on serait dans une élection avec un second tour de type, si ce n'est incertain, au moins avec des scores qui sont des scores qu'on voit dans des seconds tours. Aujourd'hui, on a 60-40 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 56-44 entre Fillon et Marine Le Pen. C'est des scores habituels d'élections de second
par
tour.
Par exemple, en 88, on en parlait tout à l'heure, François Mitterrand avait été élu de mémoire avec 54% face à Jacques Chirac. Alors à l'époque, on avait considéré que c'était quand même une victoire très très nette et même un peu sévère pour le Premier ministre. Mais avec un 56-44 dans l'hypothèse Fillon contre Le Pen, on voit qu'on n'est pas très éloigné de chiffres qui ont eu lieu historiquement il y a quelques années.
Effectivement, 65, Charles de Gaulle fait 55%, en 69, Pompidou fait 59%, donc ce serait des scores qu'on retrouve dans des seconds tours d'élections présidentielles. Mais malgré tout, avec un écart net et un écart qui est conséquent. Alors, il faut toujours prendre les seconds tours mesurés avant le premier tour avec prudence, même si il ne faut pas non plus, comme on l'entend parfois, dire qu'ils n'ont aucune valeur. On voit bien, par exemple, en 2012, que s'il y avait de l'incertitude sur le premier tour, il n'y en a jamais eu dans les hypothèses de second tour entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et au final, c'est bien François Hollande qui l'a emporté. Donc ça voulait bien dire qu'il y avait une tendance lourde, même si le résultat final a été beaucoup plus serré que les seconds tours mesurés pendant longtemps. Donc je crois que ce qu'il faut retenir de ces seconds tours, c'est qu'il semble difficile de penser que Marine Le Pen puisse, à ce stade, l'emporter sur un de ses deux adversaires. En revanche, il ne faut pas lire dans ces seconds tours, les résultats et le rapport de force final qui pourrait être celui de l'élection le 7 mai, dans la mesure où on verra bien quels sont d'abord les rapports de force au soir du premier tour. On voit bien aussi que les appels au vote, les consignes de vote qui pourraient être données par les différents candidats pourront jouer sur la mobilisation ou non des électeurs. Et puis on verra aussi quel sera l'effet de la présence, si elle est qualifiée, de Marine Le Pen au second tour, dans la réaction des abstentionnistes, par exemple. On sait que jusqu'à présent, on a toujours constaté qu'en cas de qualification du Front National dans les second tours, on a de nouveaux électeurs qui viennent pour lui faire barrage. On verra si c'est le cas encore cette fois-ci. Mais c'est aussi ça qui donne ce sentiment d'élection incertaine. Malgré tout, je crois que les mesures que l'on fait sur ces seconds tours, on l'a dit, de scores qui ressemblent à des scores d'élection présidentielle, doivent alerter sur le caractère moins, moins certain d'une victoire de l'adversaire de Marine Le Pen. À 5 semaines du premier tour, être pour Marine Le Pen entre 40 et 44% selon son adversaire ne lui interdit pas de pouvoir demain être en situation de passer la barre des 50%, même si on l'a dit la semaine dernière, il y a plein de raisons qui laissent penser que ce sera très compliqué pour le Front National.
Alors, on parle beaucoup d'arithmétique, on sait aussi qu'il peut se créer des dynamiques. De ce point de vue-là, aujourd'hui, ce qu'on a dans notre enquête, c'est du Présitrac. Marine Le Pen est en tête à 27%, et elle devance de 2 points Emmanuel Macron. On voit bien qu'il y a un enjeu aussi sur la première place. Qui arrivera en tête au soir du premier tour? Est-ce que si c'était Marine Le Pen, est-ce que cette première place serait pour elle de nature à créer une dynamique suffisante pour renverser la tendance qu'on observe aujourd'hui dans les seconds tours, en tout cas resserrer les intentions de vote dans l'entre-deux tours?
Je crois que effectivement, on sait que la dynamique de premier tour, elle est absolument décisive dans la perspective du second, et de ce point de vue-là, l'enjeu de la première place, mais aussi le score des différents concurrents.
Avec la barre symbolique des 30%.
Voilà, la barre symbolique des 30% pour Marine Le Pen, et puis l'écart entre les deux premiers. On sait que un écart comme mesuré aujourd'hui de 2 points entre les deux premiers ne crée pas forcément un avantage décisif de la première place pour le second tour. Quand en revanche vous avez entre 5 et 10 points d'écart, et ça pourrait être le cas le soir du premier tour, rien n'exclut qu'on ait un écartement des principaux candidats d'ici le scrutin, ça changerait fondamentalement les choses. Je crois aussi que il faut revenir sur le premier tour et ne pas considérer, à mon sens, que le premier tour est déjà joué pour plusieurs raisons. La première, c'est que on voit bien qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la participation. Aujourd'hui, on est autour de 65% des électeurs qui nous disent être certains d'aller voter. C'est 13 ans.
C'était 80% en 2012 au premier tour.
80%. Et même en 2002, avec une participation faible, on était à 72%. Donc, quelle va être la mobilisation réelle dans 5 semaines? Est-ce que cet indicateur est le signe d'une future abstention massive, ou plutôt juste le signe d'un certain nombre d'électeurs qui aujourd'hui ne savent pas trop pour qui voter, et donc ne nous disent pas être certains, mais qui vont petit à petit rentrer dans la campagne, dans l'élection, et aller voter au final? Ça, c'est la première incertitude. La deuxième, c'est, on le sait, aujourd'hui seulement 55%, 58% des électeurs nous disent, quand ils nous donnent une intention de vote, qu'ils sont sûrs de leur choix sur leur candidat. Et on sait notamment que sur des candidatures comme Emmanuel Macron, Benoît Hamon, on a des taux très faibles, plutôt en dessous de 50%, ce qui n'est pas le cas pour Marine Le Pen ou François Fillon. Là aussi, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'électeurs qui peuvent être amenés à changer d'avis. Et puis dernier point, il y a une nouveauté dans cette campagne, il y a une première, il y aura des débats de premier tour. Et 3 débats. Donc le premier va être lundi prochain. Et on ne sait pas quels vont être les effets de ces débats. Il est clair que dans une élection avec beaucoup d'électeurs incertains de leur choix, beaucoup d'électeurs incertains sur le fait d'aller voter, on peut penser que les débats vont jouer et vont faire bouger les lignes. On avait eu, je dirais, cette interrogation dans la primaire, à la fois socialiste mais surtout à droite. Oui. On a vu à quel point les débats, pour 70-75% des électeurs, ce sont les émissions télévisées sur la campagne, et notamment les débats qui ont fait bouger les lignes, qui ont constitué un critère de choix.
Qui ont fait émerger les deux vainqueurs.
Et il est clair qu'on a vu que la dynamique de François Fillon, qui a été appréhendée dans les sondages, même si elle n'a pas été mesurée à sa juste valeur, a émergé après ces débats télévisés. Donc là, on peut penser que c'est un élément suffisamment fort pour garder beaucoup d'incertitudes sur cette élection, d'autant que Frédéric l'a dit, on l'a vu, on pensait que ce serait la primaire de droite qui ferait l'élection. Et on voit aujourd'hui que rien n'est moins sûr. Il y a beaucoup d'événements chaque jour qui surviennent. Et on voit aussi que tous ces événements, ils ont des effets sur les intentions de vote, sur les opinions, et ils auront probablement des effets sur le choix final des électeurs.
Voilà peut-être là le sujet du prochain Présicast de la semaine prochaine. Merci à tous pour votre attention.